Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Thibaut Texer est avec nous, c'est l'heure du journal. Bonjour Thibaut.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Rima Hassan, jugée en juillet pour apologie du terrorisme, l'eurodéputée insoumise, est ressortie libre de sa garde à vue hier soir. Dans les Ardennes, une adolescente de 16 ans a reconnu le meurtre de ses grands-parents, retrouvés morts mardi matin dans leur cave. Elle a été mise en examen et écrouée hier soir avec son petit ami. Et du monde sur la route pour le départ des vacances, le week-end de Pâques aussi avec son chocolat, cher aux amateurs et au portefeuille, en hausse de 4% cette année.
Rima Hassan sera jugée en juillet.
Elle est ressortie libre de sa garde à vue. Hier soir, après 14 heures d'interrogatoire, l'eurodéputée insoumise avait été convoquée pour apologie du terrorisme en raison d'un tweet publié sur X. Et c'est donc pour cette raison, Constance Bostoen, qu'elle sera jugée cet été.
Oui, Rima Hassan sera jugée le 7 juillet prochain devant le tribunal correctionnel pour apologie du terrorisme commis en ligne, un délit pour lequel elle risque jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 euros d'amende. En cause, selon le parquet de Paris, une publication de l'eurodéputée la semaine dernière sur le réseau social X, où elle rend hommage et cite Kozo Okamoto, l'auteur de l'attentat contre l'aéroport de Tel Aviv en 1972, qui avait fait 26 morts et une centaine de blessés. Au-delà du délit d'apologie du terrorisme présumé, Rima Hassan a également été interrogée hier lors de sa garde à vue sur le contenu de son sac à main, car au moment de se présenter au commissariat, les policiers ont découvert dans les affaires de l'eurodéputé près de 2 grammes de 3-MMC, une drogue de synthèse. Selon le parquet de Paris, ces éléments feront l'objet ultérieurement d'une procédure distincte.
Et sur ce dernier point, l'insoumise démence, la présence de CBD a été constatée parmi ses effets personnels, dit-elle. Elle doit tenir une conférence de presse cet après-midi. Un premier gros dossier sur la table du maire de Paris, Emmanuel Grégoire, qui va détailler ce matin ses premières mesures contre les violences sexuelles dans le périscolaire parisien. Des annonces forcément très attendues par les parents d'élèves.
Il est 7h02 sur RMC, deux adolescents mis en examen et écroués pour assassinat dans les Ardennes.
Parmi eux, la petite fille du couple de septuagénaires retrouvés morts dans leur cave. Mardi matin, à Villers-Semeuse, âgée de 16 ans, elle a reconnu la préméditation de son acte. Son petit ami de 15 ans reconnaît lui aussi avoir participé au fait, requalifié en assassinat, un geste motivé par l'opposition de ses grands-parents à leur relation amoureuse. Un couple scolarisé dans un lycée professionnel de Sedan. Amélie Courtet s'est rendue sur place pour RMC.
Dans la cour du lycée, dans les couloirs, le couple d'adolescents ne se lâchait pas.
Vraiment l'amour fou, quoi. Mais un peu trop fou, justement.
Décrit Diego, un de leurs camarades en CAP mécanique.
C'était un peu bizarre. Ils étaient jamais séparés, en fait. Même des fois, ils séchaient pour se voir. Jamais vraiment compris. Moi.
Les lycéens parlent d'elle comme d'une fille très calme, timide, stressée. Toujours un rouge à lèvres rouge et un grand manteau beige.
C'était pas des éléments provocateurs et tout. Bah, ils étaient dans leur coin.
C'est vraiment des élèves discrets.
Lui, souvent vêtu de noir, avec une sacoche, une balafre sur le visage. Un garçon assez space, selon leurs mots assez étranges, violents aussi, précise Ryan, 17 ans.
Il avait planté une meuf à la gare de Sedan avec un ciseau.
C'était en septembre dernier, confirme le procureur de Reims lors d'une conférence de presse.
Sur fond de dispute amoureuse, semble-t-il.
Concernant les auditions des deux lycéens sur le meurtre des grands-parents de la jeune fille, il souligne...
Aussi bien les enquêteurs que les magistrats du parquet qui ont eu à les interroger ont tous été frappés par leur absence complète d'émotion et leur froideur générale, hormis quelques pleurs.
Le procureur ajoute que l'un comme l'autre ont tout de même exprimé de la tristesse et du regret.
Et les deux lycéens encourent 20 ans de réclusion criminelle. C'est ce matin que le tribunal administratif de Paris doit se prononcer sur le maintien ou non de la rencontre annuelle des musulmans de France au Bourget ce week-end, interdit par la préfecture de police de Paris en raison de risques de troubles à l'ordre public liés à une possible ingérence étrangère ou un groupe d'ultra-droite. L'avocat des organisateurs n'y croit pas. Dans le journal Le Parisien, Laurent Nunez dit lui avoir demandé l'interdiction de l'événement en raison d'un rapprochement entre les organisateurs et les frères musulmans.
Laurent Nunez qui sera l'invité du face-à-face ce matin au micro de Marie Chantrey à 8h30 sur RMC et BFM TV. La sécurité intérieure au cœur des préoccupations du gouvernement.
Au cœur des préoccupations sur fond de guerre au Moyen-Orient, les services de l'État sont en alerte. C'est le message du Premier ministre en déplacement hier à Bordeaux, inquiet Maxime Cliérusa de menaces hybrides et d'une nouvelle forme de terroriste.
Oui, Sébastien Lecornu explique que les services iraniens peuvent instrumentaliser des proxys, autrement dit activer à distance des relais présents sur le territoire français pour commettre ces attentats. Le chef du gouvernement fait directement référence à l'attentat déjoué contre une banque américaine vendredi dernier en plein Paris. Une tentative à la suite de laquelle le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, avait demandé un renforcement de la vigilance envers les sites israélo-américains à l'image des banques ou encore des ambassades. Une menace terroriste qui préoccupe particulièrement le gouvernement en cette période de fête de Pâques, juive et chrétienne. Autant d'événements pour lesquels Laurent Nunez a là aussi ordonné au préfet un renforcement de la sécurisation visant notamment les offices et rassemblements religieux.
La guerre au Moyen-Orient qui profite aux compagnies pétrolières. C'est ce que dit Greenpeace. L'organisation accuse les géants du secteur d'avoir engendré plus de 80 millions d'euros de surprofits par jour au sein de l'Union européenne depuis le début du mois de mars. Des carburants au plus haut comptaient 2 euros le litre en moyenne en France à l'aube d'un week-end de Pâques qui marque aussi le début des vacances scolaires pour la zone A. Bison futé hisse le drapeau orange dans le sens des départs ce vendredi. Ce sera même rouge en Île-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes.
80 millions d'euros de surprofits par jour en Europe, dit Greenpeace. On cherchait l'argent des carburants. Si Greenpeace a raison, on voit où il est arrivé. Puis une fois qu'on a fait le plein, s'il reste un peu d'argent, c'est Pâques. On va s'acheter des chocolats peut-être.
Une chasse aux œufs qui, elle aussi, va vous coûter cher. En hausse de 4% le chocolat cette année dans les grandes surfaces par rapport à l'an dernier. Selon une étude du FC Que Choisir, bien qu'onéreux, difficile de renoncer à ce plaisir gourmand. Pierre Bourgès, notre correspondant à Bordeaux, a pu le constater dans les rues de la ville.
Devant la vitrine du chocolatier, le regard de Nelly ne se pose pas sur les lapins ou les œufs, mais plutôt sur leur prix.
Le moins cher, un petit carré Guy Chocolat, faut pas le compter, pas loin de 7 ou 8 euros, c'est pas donné. Et puis voilà, le reste, c'est hors de prix, quoi. Il y avait des trucs à 20 euros. Si vous voulez la grosse cocotte en chocolat, c'est hors de prix.
Alors, comme l'année dernière, elle en prendra moins que d'habitude. Lise sort de la boutique avec 44 euros de chocolat. Elle a fait attention à prendre les moins chers.
Justement, pour pas trop dépenser, parce que ça reste un produit de luxe quand même.
Mais ça n'empêche pas Emmanuel, qui sort du magasin, d'en profiter.
J'en ai pour 90 euros. C'est une fois par an, donc c'est pas très grave. Le reste de l'année, j'achète pas ici. J'achète uniquement pour Pâques.
En un an, le cours du chocolat a été divisé par 3. Alors pourquoi le prix en magasin ne baisse pas? Explication de Xavier Lallaire, chocolatier à Bordeaux.
Comme on n'a pas répercuté la totalité des hausses qu'on a subies, on récupère aussi comme ça un peu cette année. Mais il y a aussi le fait que les fournisseurs ne fabriquent pas forcément avec la récolte qu'ils viennent d'avoir. Là, je suis en ce moment au plus haut de ce que j'ai payé jusque-là. Mais l'année prochaine, ça ira mieux aussi.
Son produit phare pour Pâques 2026, un petit hérisson de 88 grammes à 10,50 euros.
Le coup d'envoi de la 28e journée de Ligue 1 ce soir 20h45 sur AMC. Toulouse se déplace sur la pelouse du PSG avant son quart de finale de Ligue des Champions face à Liverpool la semaine prochaine. La Coupe d'Europe et le sacre du PSG évoqué par Kylian Mbappé dans un podcast animé et produit par son coéquipier Aurélien Tchouaméni dans lequel Kylian Mbappé assure ne pas avoir de rancœur. Et puis ils ont quitté l'orbite terrestre. Les 4 astronautes de la mission Artemis 2 ont mis les gaz direction la Lune qu'ils vont contourner dans 3 à 4 jours et devenir par la même occasion les humains à aller le plus loin de la Terre.
Oh là là, c'est toujours impressionnant hein, que la conquête spatiale, je sais pas si vous avez eu la chance de voir les images du décollage, les vidéos. C'est autre chose que l'émission Apollo dans les années 70, hein, la qualité de l'image.
Hein. Ah bah c'est...
Je tiens à dire que là-dessus, on a progressé. Merci Thibaut Texer, merci beaucoup. 7h08 sur RMC, vous avez dit, ils ont mis les gaz, ouais. Ouais. Ils ont trouvé du carburant, eux, a priori. La question des pénuries, on va l'évoquer, la question des prix surtout, la question des privations que ça suscite sur les vacances, sur vos courses, sur le week-end de Pâques. Vous n'hésitez pas, on vous attend au 32-16. Hassan est avec nous dans l'Hérault ce matin. Bonjour Hassan.
Oui, bonjour à toutes et tous.
Soyez le bienvenu, vous êtes transporteur vous-même, transporteur routier, ce qui veut dire que vous circulez pas mal. Déjà, est-ce qu'il y a moins de monde sur les routes ou pas, Hassan?
Alors non, c'est ce que je disais tout à l'heure à vos collègues sur le standard.
Moi,
je
constate Clément, il s'appelle.
Mais écoutez, voilà, enchanté Clément, enchanté tout le monde. Je constate que ça vit, ça bouge, les Français profitent plutôt de la vie. Moi, je vous disais, le week-end dernier, j'étais... à Montpellier, j'étais à la Comédie, j'étais à Auditium, enfin différents endroits, et je constatais que ben voilà, les gens consommaient, les terrasses étaient pleines, ça vivait, ça bougeait. Voilà, j'en ai vraiment assez de d'entendre sans arrêt les gens se plaindre. On est champion du monde de l'épargne.
C'est vrai qu'on est champion du monde de l'épargne. Mais honnêtement là, si je vous dis, parce que Manuel Le Chypre va nous dire ça tout à l'heure, Manuel Le Chypre. Et qu'on pourrait atteindre les 3 euros sur le gasoil par endroit à la fin de ce week-end. Franchement, Hassan, il y a quand même un petit choc thermique, même si on continue d'aller au café.
J'entends très bien, mais à ce moment-là, arrêtons de consommer. Ce que je dis, je suis président d'un club de foot, on fait des déplacements en plus d'une heure, ça râle, mais tout le monde se déplace. Donc ça vit, ça bouge. Maintenant, c'est pour ça que il y a vraiment une contradiction. Moi, j'entends maintenant, si ça va vraiment mal, mais arrêtons de consommer.
Non, j'entends ce que vous dites, Hassan. Alors, cela dit, faisons la part des choses. Il y en a pour qui c'est moins douloureux que pour d'autres. Et il y en a qui, effectivement, affirment avoir réduit leur consommation. Un tiers des Français qui se privent parfois de nourriture, parfois même de médicaments, nous disait l'Institut Montaigne dans le Morning, au micro d'Élise et de Victor tout à l'heure à 6h40. Vous continuez à réagir au 32-16, Hassan. C'est une réalité, hein, ce qu'il nous dit. Il y a du monde sur la route, il y a du monde en terrasse. Est-ce que chez vous, ça a eu un impact? Est-ce que vous vous privez? Est-ce que ça change vos vacances ou votre week-end de Pâques? On vous attend ce matin au 32-16, n'hésitez pas. Un ancien policier soupçonné d'avoir tué sa conjointe et son ex-compagne au Portugal, Cédric Prison, doit être extradé vers la France. Bonjour Stéphanie Lamy.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse spécialiste de la guerre de l'information. Pour vous, les faits reprochés à Cédric Prison relèvent du terrorisme masculiniste. C'est votre parti pris dans un instant sur RMC. À tout de suite.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Mathieu Béliard.
Il est 7h14 sur RMC et RMC Story. Très bon réveil à toutes et à tous. Cédric Prison, vous avez suivi cette affaire. Ancien policier accusé d'un double féminicide. C'est cet homme interpellé au Portugal avec ses deux enfants, soupçonné d'avoir tué son ex-conjointe et sa compagne actuelle. Stéphanie Lamy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse, vous avez publié La terreur masculiniste aux éditions du Détour. Et c'est votre parti pris ce matin. Vous affirmez que les faits reprochés à Cédric Prison relèvent du terrorisme masculiniste. Avant d'explorer cette question juridique importante que vous posez, d'un mot, est-ce que vous pouvez rappeler à nos auditeurs ce que signifie masculiniste?
Alors le masculinisme, c'est une forme de suprémacisme masculin. Et donc, ce qui distingue en fait le sexisme et la misogynie du masculinisme, c'est l'action collective d'une part, et l'androcentrisme, c'est-à-dire concentrer toute l'attention uniquement sur la condition masculine, d'autre part. Donc, en fait, les masculinismes sont multiples. Vous avez plusieurs branches. Tous les milieux masculinistes vont développer des formes de violence, voire faire l'apologie des violences. Et par ailleurs, les pères séparés, donc c'est le groupe dans lequel Cédric Prison s'est radicalisé.
Oui, un groupe de papas en colère, oui.
Voilà, c'est en fait la branche historique, le canal historique de toutes les mouvances masculinistes.
Et vous avez utilisé un mot important, c'est radicalisé. On va y revenir. Vous êtes à l'origine, Stéphanie Lamy, d'une pétition qui demande à ce que le parquet national antiterroriste soit saisi de cette affaire Cédric Prison. Hier soir, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes a fait la même requête et vous donne raison pour que cette enquête et le procès qui suivront servent d'électrochoc, dit le Haut Conseil à l'égalité. Qu'est-ce qui permet, selon vous, de qualifier ces actes dont est accusé Cédric Prison de terrorisme?
Alors, ce qui différencie en fait les violences crapuleuses ou interpersonnelles du terrorisme, c'est de viser une cible première pour atteindre une cible symbolique. Ce qui se passe dans les milieux radicaux des pères séparés, c'est qu'ils vont vouloir instaurer la loi des pères au-dessus des lois de la République. Donc, c'est exactement ce qui s'est passé dans l'affaire Cédric Prison. On sait très bien qu'il a participé dans ces milieux-là. Il a manifesté devant le tribunal de Rodez, il a fait une grève de la faim, il a participé dans un groupe Facebook, il a publié des contenus de la propagande sur les réseaux sociaux en expliquant que la justice est favorable aux femmes, ce qui est de la désinformation. Ensuite, vous avez aussi des contenus, il va dire que, par exemple, d'être un père, c'est un crime, qui va foutre le bordel, j'utilise ces termes, foutre le bordel au niveau national au nom de la cause paternelle. Donc, tous ces éléments-là permettent de dire que, voilà, il est quand même dans une démarche politique, que c'est pas juste une affaire interpersonnelle, et que là, pour le coup, on devrait pouvoir saisir, le PNAT devrait pouvoir se saisir pour
examiner.
Voilà. Devrait pouvoir se saisir pour pouvoir examiner le milieu dans lequel il était radicalisé.
Et alors, ça fait plusieurs fois que vous l'utilisez ce mot, et d'ailleurs, pardonnez-moi, Bérangère Couillard, du Haut Conseil à l'égalité, l'a utilisé aussi. On se radicalise masculiniste via le processus que vous venez de décrire. C'est ça qui fait que, selon vous, on n'est pas dans un fait divers, mais dans un fait de quoi? De société?
Oui, c'est un projet politique. Le masculinisme,
c'est un projet politique.
Donc, c'est le suprémacisme masculin en réaction des avancées des droits des femmes. Comme je disais, le canal historique des masculinismes, c'est les groupes de pères séparés. Ils se sont formés dans les années 60-70 en opposition à l'autorité parentale conjointe et aux droits économiques des femmes divorcées. Donc, on est sur une...
Et ils vont estimer que les juges sont des femmes et que la justice est féminisée, etc. C'est ce canal-là dont vous parlez. Mais pardonnez-moi, il y a ce courant de pensée que vous décrivez et il y a le passage à l'acte. Il y a quand même une nuance, Stéphanie Lamy.
Oui, bien sûr. Donc, vous avez un courant de pensée. En fait, la manière dont la radicalisation a eu lieu, c'est qu'il va reconfigurer un grief personnel, une attente perçue à l'identité masculine en grief collectif. Et c'est ce qui s'est passé quand il a rejoint le groupe Facebook, où il a publié « Ah, je vois, je ne suis pas seul ». Et ensuite, il a participé avec d'autres pères dans des actions plutôt non violentes au départ, mais il a également harcelé son ex. Il a été condamné par ses productions au nom de la cause paternelle.
Avec cette question, est-ce qu'il faut craindre des passages à l'acte nouveaux de cet ordre-là du terrorisme misogyne? On va pas faire de, on n'a pas de boule de cristal ni vous ni nous, Stéphanie Lamy.
Ça a déjà eu lieu.
Il y a déjà
en
eu,
fait, bah, le PNAT a déjà été saisi juillet dernier pour les incels, pour une autre mouvance de la branche, une autre branche du masculinisme. Donc là, ce qu'on demande, c'est que tous les milieux masculinistes soient considérés comme pouvant susciter l'acte terroriste.
Stéphanie Lamy, oui, vous parliez de ce lycéen de 18 ans soupçonné de vouloir attaquer des femmes avec des couteaux, arrêté et puis donc mis en examen par le parquet national antiterroriste en juillet dernier. Merci de l'avoir rappelé. Merci Stéphanie Lamy de nous avoir éclairé sur votre parti pris. La terreur masculiniste est votre livre. Il y avait déjà cette notion de terrorisme. Est-ce qu'il faut considérer les masculinistes radicalisés, le cas Cédric Prison lui-même, pour être précis, comme relevant du parquet national antiterroriste? C'est aussi le débat. On vous attend ce matin au 32-16. Merci Stéphanie Lamy. Je rappelle que vous êtes à l'origine de cette pétition qui demandait la saisie du PNAT. 7h19. Dans un instant, on va remonter l'histoire avec vous, Arthur Chevalier. Bonjour Arthur.
Bonjour Mathieu.
Une bouteille de vin a battu un record de prix il y a quelques jours. Mais Arthur, qui en premier a inventé la bouteille?
Eh bien, je vais vous surprendre, Mathieu, mais ce sont les Anglais.
Non.
Eh oui, comme quoi on peut faire du mauvais vin tout en ayant de bonnes bouteilles, voilà.
Oh, la chute me va mieux. Tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h21 sur RMC et RMC Story. Quand l'histoire éclaire notre actualité, avec vous, Arthur Chevalier, on va dire du bien des Anglais. Avec le vin, c'est assez étonnant. C'est un record mondial qui vient d'être battu dans une vente aux enchères à New York. Et ça ne concerne pas n'importe quel objet, on parle bien sûr d'une bouteille de vin.
Oui, 812 500 $. Voilà à combien est partie cette bouteille exceptionnelle. Une bouteille française, hein, puisque c'est un vin rouge de Bourgogne. Un Romane Conti de 1945. C'est un des meilleurs vins du monde, hein, la Romane Conti. Le précédent record était d'ailleurs déjà détenu par une bouteille de Romane Conti. Elle avait été vendue en 2018 pour 558 000 $.
Ouais, elle a 812 000 $, un appart à Paris.
Ouais.
Petit appart, mais bon, appart. Depuis quand est-ce qu'on conserve le vin dans des bouteilles, Arthur?
Eh bien, c'est assez récent, hein. À l'origine, le vin, on le conservait dans des tonneaux, naturellement, et on le servait dans des pots en terre cuite. Prenez les Romains, ils buvaient beaucoup de vin, mais à table, le vin n'était pas dans des bouteilles, mais dans des amphores, c'est-à-dire des sortes de grands vases avec des oreilles. Les bouteilles en verre existaient, mais on s'en servait pour mettre du parfum, pas pour mettre du vin.
Et quand est-ce qu'on invente la première bouteille de vin? C'est une invention française?
Eh bien non, ce n'est pas une invention française, Mathieu, et vous allez être surpris puisque c'est une invention anglaise. Hein. La première bouteille destinée au vin, ça date de 1662. C'est l'invention d'un diplomate anglais qui s'appelait Kenelm Digby. Et alors, pour fermer la bouteille, il a déjà l'idée d'utiliser un bouchon en liège, hein, exactement comme aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs grâce à la bouteille qu'on s'est rendu compte que le vin s'améliorait en vieillissant quand il était bien conservé.
Alors en France, à table, on servait déjà le vin dans les bouteilles du coup?
Alors nous, c'est différent, Mathieu. Hein. Pendant longtemps, les bouteilles ne sont pas sur les tables. Le vin est dans des tonneaux et on le sert en général dans une carafe, sur un plateau. Il faut attendre le 18e siècle pour qu'on autorise ne serait-ce que de transporter du vin dans des bouteilles. Cette autorisation, elle est d'ailleurs venue directement du roi Louis XV. Et c'est arrivé grâce au champagne, puisque évidemment le champagne, comme il y a des bulles, ben, vous n'avez pas le choix, il vous faut une bouteille. Et à partir de là, l'usage s'est généralisé.
Alors les bouteilles, elles ressemblaient déjà à celles qu'on utilise aujourd'hui?
Bah alors pas vraiment, parce qu'en fait on utilisait un peu ce qu'on avait sous la main, donc il n'y avait pas de bouteille type, de bouteille uniformisée si vous voulez. Il faut attendre 1866 pour qu'on uniformise en France les bouteilles, et on décide donc qu'elles feront 0,75 centilitres, comme aujourd'hui.
Mais tiens, pourquoi 0,75 centilitres?
Eh bien c'est une très bonne question. Parce que les plus gros importateurs de vin français, c'était les Anglais.
Encore eux.
Et les Anglais avaient leur propre unité de mesure pour les liquides. Cette unité de mesure, ça s'appelle le gallon. Ils achetaient donc le vin par gallon. Un gallon, ça faisait 4,5 litres. Donc pour standardiser les exportations, vers la Grande-Bretagne. Les vignerons français se sont dit qu'un gallon divisé par 6, ça donnait un chiffre à peu près rond, 0,75 centilitres.
Wow.
Et c'est aussi ce qui explique pourquoi tous les cartons et toutes les caisses de vin sont tous par 6.
C'est par 6, ça fait un gallon en fait.
Vous le savez.
On achète une caisse de vin, on achète un gallon.
Exactement.
Ben, merci Arthur Chevalier, on apprend merci, en Mathieu. S'amusant. L'historien d'Apolline Matin, même si on dit du bien des Anglais, on va rappeler aussi que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, que c'est à consommer avec modération. En revanche, l'écoute ou la réécoute des chroniques d'Arthur, c'est à volonté, allez-y sur l'appli RMC. Il est 7h24.
RMC.
Demanche Pirate, le face-à-face.
Il est là. Bonjour Arnaud Demanche.
Bonjour.
À 8h30 bonjour. Tout à l'heure sur RMC et BFM TV, l'invité du face-à-face, c'est le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez.
Ouais, vraiment, il y a des chouchous ici. Hein. Je veux pas dire, mais voilà, Arthur Chevalier, il a droit à une belle chronique sur le pinard. Il a pu faire un joli texte sur les bouteilles de vin. Il a même bu du vin toute la soirée en disant « C'est pour le travail !» Et moi, j'ai Laurent Nunez. Voilà. Je tape Laurent Nunez dans Google et je vois les propos de Laurent Nunez sur le voilement des fillettes font polémique. Et allez, vas-y l'humoriste, fais une super chronique sur le voile. L'équilibriste. Non, mais c'est un sujet qui passionne les Français. T'as régulièrement des éruptions sur le thème du voile. T'allumes BFM, nouvelle polémique sur le voile. CNews, le voile déchire les Français. M6, la France a un incroyable voile. Le voile de la tentation. Recherche appartement, wallah. Qui veut épouser ma fille voilée? Et tout le monde s'engueule, ça débat. Et à la fin, t'as Laurent Nunez qui débarque en disant « Notre pays ne doit pas se diviser sur le voile. Enfin, » j'ai l'impression que c'est déjà un peu le cas quand même. Laurent Nunez a donc déclaré il y a quelques semaines qu'il refusait d'interdire le voile pour les mineurs. Je cite « Je ne crois pas qu'en portant le voile, des enfants menacent le vivre ensemble. Il refuse donc de courir le risque de stigmatiser des gamines. » Alors, petite parenthèse, si le voile pour les fillettes, c'est comme les femmes, c'est fait pour qu'elles n'attirent pas le regard de l'homme, ça ne changera rien du tout. Je veux dire, si un homme est attiré par un enfant, il n'y a qu'une combinaison électrifiée qui va l'arrêter. Il fait « C'est mignonne, toi !» Allez, dans la gueule, Claude François, mais il n'y a que ça qui marche. Alors, pourquoi ça clash autant, le voile? J'ai ma petite théorie.
J'étais sur Claude
attention,
François
conférence TEDx. Le voile, il y a des femmes qui le portent parce qu'elles veulent être pudiques aux yeux de Dieu. Mais en France, il y a plein de gens qui ont reçu une éducation chrétienne. Et pour eux, c'est dur à comprendre parce que chez les chrétiens, Dieu n'est pas pudique. Je vous rappelle qu'au début, Adam et Ève vivent au paradis et ils sont à
tout
poil,
nu.
Tout nus.
Ouais.
Et ils croquent la pomme et c'est là qu'ils réalisent qu'ils sont tout nus. Et ils ont honte. Alors ils se couvrent et ça met Dieu en colère. Ils débarquent en disant « Salut ! Salut Adam ! Salut Ève ! Et Adam ! Chabite ! Hey, qu'est-ce que c'est que ces vêtements là ? Vous foutez de qui ? Allez à poil ! À poil ! Allez, tout le monde à poil ! Le petit bonhomme en bouche.
Vous n'avez pas honte ?
Ben non. Alors eux ils répondent « Ben non, nous on n'aime plus être nus. »
À poil, je vous dis !
Alors évidemment, si de l'autre côté tu crois que Dieu est pudique, eh ben c'est contradictoire avec le hippie nudiste. Et c'est pour ça qu'on ne se comprend pas dans cette société. Voilà, c'est pour ça que le débat revient régulièrement. Donc voilà, n'hésitez pas, hein, si vous voulez que je vulgarise comme ça des sujets compliqués.
Franchement.
Je peux faire aussi des séminaires d'entreprise.
Même faire la physique quantique lundi.
La physique quantique, on y va. Mais en attendant, c'est rendez-vous avec Laurent Nunez à 8h30.
Merci beaucoup Arnaud Demange, qu'on retrouve tout à l'heure. Et en podcast quand on le veut, bien sûr. Tout à l'heure, c'était à 8h20 sur RMC et RMC Story. Après le journal, le début des vacances pour la zone A, le week-end de Pâques. Impacté évidemment par le prix des carburants. Est-ce que vous avez changé vos habitudes, changé vos plans? Surtout dites-le nous au 32-16. On revient dans quelques secondes, à tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Et c'est l'heure de retrouver Clara Gabillet pour un nouveau journal. Bonjour Clara.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Il avait promis d'en faire son premier combat. Les parents d'élèves attendent désormais des actes du nouveau maire de Paris contre les violences sexuelles dans le périscolaire. Ses premières mesures annoncées ce matin. Des Français contraints de choisir entre le plein d'essence et les courses alimentaires. Ils sont un tiers à se serrer la ceinture selon une étude. Et puis à Honfleur en Normandie, la carte postale est un peu écornée. Une partie du port fermée à cause d'un risque d'effondrement.
C'est aujourd'hui que le maire de Paris dévoile ses premières mesures.
Conférence de presse en fin de matinée qui sera sûrement suivie de près par de nombreux parents d'élèves inquiets des nombreux cas de violences sexuelles dans le périscolaire. Emmanuel Grégoire a promis d'en faire son premier combat pour protéger les enfants. Julie Brault, service police-justice d'RMC, certains parents veulent du concret et vite.
Depuis plus de deux mois, Marie n'attend qu'une seule chose.
Moi, j'ai besoin que mon fils soit entendu. On comprend pas, on sait très bien que les enfants de 4 ans et demi, en fait, il faut prendre leur parole très vite parce qu'ils oublient, ils se protègent, ils n'ont pas la même notion du temps que nous, donc il faut leur parler très vite. Et là, C'est long sans nouvelles.
La mère de famille a porté plainte le 23 janvier après que son fils de 4 ans et demi lui a confié qu'un animateur lui a touché les fesses et le sexe à l'école, mais depuis, rien ne bouge.
On a essayé de joindre le parquet, la brigade des mineurs qui nous ont dit que l'enquête n'avait pas commencé. On se sent très seul face à des institutions et moi, ce que j'ai peur, c'est que tu sois mis de côté et qu'on continue de ne pas croire les enfants ou de miser leurs paroles.
Un cas loin d'être isolé, déplore maître Kathleen Taïeb, avocate de plusieurs dizaines de familles qui se heurtent à des policiers dépassés par le nombre de plaintes pour violences sexuelles dans le périscolaire.
Beaucoup d'enquêteurs vous disent, maître, je suis désolée, on peut pas gérer ces dossiers, on est débordés, on est sur un triple homicide là ou sur un viol incestueux pendant machin. Mais on comprend que c'est pas tout en haut de leur liste de priorités. Et quand ça l'est, ben soit ils savent pas s'y prendre, soit il n'y a pas de moyens.
Un constat que partage une source policière qui admet on n'arrive plus à tenir la cadence au détriment des enfants et de leur famille.
Rima Hassan, convoquée au tribunal en juillet pour apologie de terrorisme, l'eurodéputée insoumise en garde à vue hier pour s'expliquer sur ce tweet qu'elle a depuis supprimé et qui faisait référence à l'auteur d'un attentat à l'aéroport de Tel Aviv en Israël. Une autre procédure va être lancée contre Rima Hassan car de la drogue de synthèse a été retrouvée dans ses affaires, selon le parquet, ce qu'elle réfute.
Quand le prix du carburant décourage même de faire ses courses alimentaires.
C'est la réalité d'un tiers des Français interrogés par l'Institut Montaigne qui se serre la ceinture à cause de la flambée des prix à la pompe. Le sans-plomb 95 dépasse désormais les 2 euros le litre. C'est 2,25 pour le gasoil. Martin Lange à Rennes pour RMC. Des Français qui rognent sur des produits pourtant essentiels.
Martin est retraité, sa pension est d'un peu plus de 1000 euros par mois. Alors forcément, avec la hausse des prix du carburant, elle a réduit ses dépenses.
On économise surtout, hein. La viande, j'en mange déjà pas beaucoup d'avance. Je mange plus de poisson. Je mange beaucoup de légumes, des crêpes. Je fais des choses qui reviennent pas trop cher.
Mais les actifs aussi se serrent la ceinture à l'image de Tiffen.
On fait moins de courses, donc on achète plus des trucs à plus petit prix, quoi. La viande rouge, le poulet. En général, on prend du jambon ou des allumettes, quelque chose comme ça. Pas de la vraie viande, c'est dur quoi.
Autre poste de dépense sur lequel les Français rognent, selon l'étude, les médicaments. Mère d'un enfant handicapé, Christine limite ses allers-retours à la pharmacie.
J'ai l'habitude d'y aller toutes les 3 semaines. Ça faisait un mois et demi que j'y étais pas allée.
Pour faire des économies, Christine évite aussi les sorties.
J'avais encore les moyens d'aller boire mon petit café le matin et le soir. Total, c'est un budget d'environ 3 euros, 3,50 €. Ça paraît débile hein, ce que je dis. Eh ben non, je le fais pas.
Et de soupirer, il faut être marin, pêcheur ou routier pour être aidé. Quand on vit en zone rurale, c'est un enfer.
Et justement, pour vous aider à trouver le carburant le moins cher près de chez vous, rendez-vous sur l'appli RMC et sur le site rmc.fr pour retrouver notre carte interactive des stations-service.
Et oui, la carte, le plein RMC, BFM, c'est pratique. Est-ce que vous vous privez en général? Est-ce que vous avez changé vos plans pour les vacances aussi? On va en parler à 7h40. En gros, les Français partent moins loin, moins longtemps.
Et en ce jour de départ en week-end prolongé et de vacances pour certains, c'est orange dans le sens des départs partout en France, rouge en Île-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes. Et si vous avez prévu d'aller à Honfleur en Normandie, vous allez devoir adapter un peu votre visite. Une partie de la ville bouclée, notamment son emblématique port, des cordes de cartes postales défigurées car 3 immeubles menacent de s'effondrer. Des habitants et des commerçants ont dû évacuer Lougarnier.
Des routes barrées, une partie du quai bloquée et 19 commerces à proximité du port fermés à cause du risque d'effondrement imminent de 3 bâtiments du centre-ville.
La situation, elle est dramatique pour tout le monde.
Laurence tient un salon doté dans une rue annexe où des barrières empêchent désormais les voitures de circuler.
Ça donne un peu une image de Honfleur en chantier. Beaucoup de barrières qui sont mises, ça arrête certaines personnes et qui ne viennent pas. Et donc, du coup, on se retrouve avec des rues entièrement mortes.
Elle compte sur la mobilisation des touristes pour sauver les commerces alors que les vacances démarrent. Ce soir, une inquiétude que partage le maire Nicolas Pubreuil.
C'était vraiment maintenant le coup d'envoi de la saison. Et donc là, c'est un désastre. La perte d'exploitation, elle est totale, hein, puisque c'est une fermeture jusqu'à nouvel ordre. Ça fait château de cartes. Il faut déconstruire et en même temps permettre aux autres de rester debout.
Il va falloir faire de la dentelle, reconnaît l'élu dans un souffle qui s'attend à des travaux longs et colossaux.
On en sait un peu plus ce matin sur les circonstances de l'attentat déjoué contre la Bank of America la semaine dernière à Paris. 3 adolescents et 1 majeur mis en examen et placés en détention provisoire. Et ce matin, donc, le journal Le Monde révèle des détails sur leur profil et comment ils se sont organisés, Constance Bostoen.
Oui, selon les révélations de nos confrères du Monde, l'un des mineurs raconte qu'un plan lui a été proposé via Snapchat par un commanditaire. Ce dernier lui intime avec deux autres jeunes de venger un ami trompé par sa copine en posant un feu d'artifice en bas de chez elle pour l'intimider. Il explique qu'une fois la mission réalisée, il devait être payé et que si la scène était filmée, il toucherait plus d'argent que prévu, entre 1000 et 1400 euros à se partager à trois. Les adolescents admettent, je cite, « hallucinés » en voyant la taille du colis qu'ils doivent déposer. Ils évoquent leur envie de se retirer de l'opération à ce moment-là. De son côté, le commanditaire présumé assure en garde à vue avoir été lui-même missionné par une personne qu'il ne connaît pas. Il m'a dit que si les petits réussissaient cette mission, il y en aurait plein d'autres, ajoute-t-il, en assurant n'avoir jamais été au courant d'un quelconque projet terroriste.
Et puis Gims, qui vient d'être mis en examen, sort une nouvelle chanson pour lui qui a été mis en examen pour blanchiment aggravé, le chanteur sous contrôle judiciaire. Il vient donc de sortir cette nouvelle chanson. Reste à savoir si, écoutez, les paroles ont un lien avec ses ennuis judiciaires.
Ils vont me mettre aux arrêts.
Ah oui. Ah bah oui. Alors je sais pas quand est-ce qu'il l'a écrit, mais peut-être que ça a un lien. Ça s'appelle Soleil et c'est donc la nouvelle chanson du chanteur Gims.
Aux arrêts, ouais, je dois dire ouais. Qu'on va y voir un lien évidemment. Après c'est toujours pareil, Gims, qu'on aime ou qu'on aime pas, on va l'entendre.
Ah, ça, je vous dire, et ça reste dans la tête.
Et ça va rester dans la tête. Le quintet à Vincennes aujourd'hui, enfin ce soir à 20h15, on est vendredi, Clara.
Ouais, la Dream Team des courses RMC vous conseille de jouer son favori, le numéro 9, JP de Crépin. L'Outsider, c'est le numéro 4, Initial Hero, le 9 et le 4.
Merci beaucoup Clara Gabillet, 7h37. Autre info ce matin qu'on développe, l'arbitrage avec micro. À partir de ce soir, c'est testé, PSG Toulouse. On va entendre les décisions de l'arbitre en cas d'emploi de la VAR, hein, en cas de pénalty, etc. Vous connaissez la VAR quand vous suivez le foot. Nicolas est en ligne avec nous depuis Fréjus. On a posé la question, le rugby le fait déjà depuis des années. Est-ce que c'est une bonne idée de sonoriser les échanges que peuvent avoir les arbitres avec les joueurs notamment? Bonjour Nicolas.
Bonjour à tous, bonjour.
Nicolas, vous êtes client de cette expérimentation qui sera faite ce soir?
Oui, je suis client parce que je pense que pour déjà la simple et bonne raison, c'est que ça va défrustrer le téléspectateur, l'auditeur, parce que souvent on comprend pas pourquoi la motivation de l'arbitre s'est orientée sur telle ou telle décision. Et là, je pense que d'avoir au moins son information à lui et sa motivation, bah, je pense que ça va nous calmer tous derrière notre écran ou derrière la radio. Donc je pense que déjà de ce point de vue-là, on est tous d'accord. Après, ça ne veut pas dire qu'on l'approuvera quand même, parce qu'on en reste chauvin avant tout. Mais au moins,
un peu supporter. Mais, voilà, mais non, mais vous dites que ça peut apaiser les choses, quoi.
Ouais, et un autre point aussi, moi, qu'on n'évoque pas assez, c'est que je pense que les joueurs vont peut-être se calmer un petit peu au niveau de leur véhémence vis-à-vis des arbitres. Je crois que on sait lire sur les lèvres parfois, et quand il y a des décisions de la VAR qui sont impliquées, bah ils s'emportent souvent.
Ah, quand ce sera sonorisé, diffusé, voilà, à la télé, voilà, à la radio et dans
exactement.
Le stade. Ouais, vous avez raison,
ils
Nicolas.
Ils auront peur d'aller en commission de discipline et de se taper la honte à justifier qu'ils ont insulté l'arbitre de tous les noms pour une simple décision qui me paraît être voilà banale quand on connaît aujourd'hui la conjoncture actuelle.
Écoutez, et puis, Nicolas, on va écouter en tout cas ce soir sur RMC, vous entendrez les décisions de l'arbitre en cas de VAR, en cas de décision litigieuse à suivre, expérimentation, est-ce qu'il faut le prolonger? On vous posait la question, vous continuez comme Nicolas à réagir ce matin au 32-16, n'hésitez pas, il est 7h39.
RMC, jusqu'à 9h, Apolline Matin.
Mathieu Béliard.
Il est 7h43, bon réveil à l'écoute d'RMC. Face à l'augmentation des prix des carburants, les Français partent moins et moins loin. À partir de ce soir, c'est le début des vacances de printemps et du week-end de Pâques. Le week-end de Pâques, c'est pour toute la France. Bonjour Corinne Joly.
Bonjour.
Vous êtes la patronne du site Particulier à Particulier. Alors, c'est la première question, bien sûr, la crise des carburants. La hausse des prix, ça a changé les plans des Français?
Oui, en fait, ce qu'on a observé sur notre plateforme PAP Vacances, c'est d'une part une légère baisse des réservations. On est à moins 2% alors que toutes les vacances précédentes avaient plutôt une tendance à la progression. Et puis aussi une évolution des destinations avec des destinations... En fait, on voit que la partie nord du pays va essayer de rester au nord. Donc ça va favoriser la Bretagne et la Normandie pour justement éviter des trajets trop longs et aussi pour réduire les coûts d'hébergement.
Alors, moins 2%, j'arrive pas à mesurer si c'est beaucoup, pas beaucoup. Si je comprends ce que vous nous dites, en réalité, Corinne Joly, c'est que les Français vont partir moins loin, moins longtemps. Ils s'adaptent plus qu'ils ne renoncent.
Exactement. C'est ce qu'on observe la plupart du temps sur les vacances. Et les vacances le permettent parce que, en fait, il y a tellement d'options sur les vacances qu'on peut vraiment faire beaucoup d'optimisation pour réduire son budget. Et donc, très souvent, plutôt que de les sacrifier, On va raccourcir un petit peu, partir plutôt 4 jours plutôt qu'une semaine. On va choisir une destination qui est moins chère. Et là, typiquement, la Normandie et la Bretagne. Si vous habitez dans le nord de la France, non seulement vous allez payer moins en transport parce que c'est plus près, mais vous allez aussi avoir un hébergement qui est moins cher. Et puis, on voit ensuite d'autres types d'adaptations une fois qu'on est sur place. On sait, par exemple, on en a beaucoup parlé ces dernières années, que les Français vont un petit peu moins en restaurant, ou que quand ils vont en restaurant, ils prennent un petit peu moins de dessert, un petit peu moins de boisson. Donc il y a beaucoup d'arbitrage possible finalement pour faire des économies, et c'est toujours ça qui est privilégié plutôt que de sacrifier les vacances, parce que les vacances ça reste aussi un moment en famille.
Bien sûr. Les séjours à l'étranger reculent nettement, Corinne Joly.
Effectivement, alors on voit une baisse de l'Espagne, alors que l'Espagne ces derniers temps ça progressait beaucoup. L'Espagne en fait c'est une forme de concurrence à la Côte d'Azur en moins cher. Mais là, pour le coup, pour une fois, on a une baisse. Alors, les billets d'avion ont augmenté aussi. Ah oui. Et puis, l'Espagne, il y a un certain nombre de personnes qui y allaient en voiture en passant par les Pyrénées, parce qu'en fait, la Costa Brava, c'est très près en fait de la France. Mmh. Et là, du coup, c'est aussi impacté par la hausse du coût de l'essence.
Est-ce que vous avez déjà des éléments sur l'été, Corinne Joly? Est-ce que vous observez déjà des tendances?
Alors, on a déjà, je vais donner des éléments sur mai, parce que là, il y a une petite baisse en avril. En revanche, il y a une progression sur mai. Le mois de mai, il est très favorable au niveau du placement des jours fériés. 1er mai, c'est un vendredi, 8 mai aussi, le 15 mai tombe après, et il y a le lundi de Pentecôte après. Donc, déjà, le mois de mai, on est assez optimiste. Ça va plutôt bien se passer. L'été, c'est encore un peu difficile.
En fait, au lieu de partir une semaine à Pâques, les gens vont se garder des petits week-ends de 3-4 jours, quoi.
Exactement, on va disperser des petits week-ends un peu moins chers, ouais, pour s'aérer, mais de manière un peu plus économique. Pour l'été, vraiment, ce n'est pas joué. En général, à cette période de l'année, il n'y a que la moitié des réservations qui sont faites. Donc là, c'est vraiment, là, on est début avril, c'est vraiment maintenant que tout va se jouer. De avril à juin, le gros des réservations va se faire. Ça va dépendre évidemment des contraintes budgétaires, mais ça va aussi dépendre de la météo du printemps. Ouais. Parce que quand le printemps est maussade, généralement, ce sont les destinations où il y a une garantie d'ensoleillement qui s'en sortent le mieux. À l'inverse, si le printemps est ensoleillé, alors la Bretagne, la Vendée, la Normandie s'en sortiront très bien.
On vous rappellera, Corinne Joly, ça vous le savez, hein, présidente de Particulier à Particulier. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. La zone A commence ses vacances aujourd'hui. Week-end pascal pour toute la France, week-end de 3 jours. Pour trouver la station essence la moins chère, la station service la moins chère près de chez vous, je vous rappelle évidemment le plein RMC et BFM sur l'application RMC. Vous avez toutes les stations service autour de chez vous. Je vous garantis pas un prix bas, je vous garantis la moins chère. C'est tout ce qu'on peut faire. Et après 8h10, vous écouterez Manuel Le Chypre, qui vous promet le gasoil à 3 euros le litre, lui. Ça, c'est encore autre chose, mais ça va vous agacer. 7h47, vous êtes sur RMC, vous réagissez au 32-16 et vous nous dites, tiens, ce que vous avez prévu pour ce week-end, pour ces vacances. N'hésitez pas, vous serez en direct avec nous.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h49 et avec vous, Élise, le bonus, on va reparler de Céline Dion ce matin.
De Céline Dion et du record absolu qu'elle vient de battre, record d'inscription à la loterie pour sa pré-vente. 9 millions d'inscrits d'après le journal Le Parisien, qui cumule les deux sites officiels de cette loterie. C'est tout simplement du jamais vu. Taylor Swift est battue à plate couture. Alors depuis hier soir, 19h, les inscriptions sont closes et c'est là que le plus dur commence. Les équipes qui gèrent la billetterie vont devoir vérifier toutes les inscriptions pour filtrer au maximum les bots, ces robots qui ne sont là que pour alimenter le marché noir. Les premiers gagnants seront contactés lundi prochain et pourront acheter jusqu'à 6 billets. Et une petite lumière quand même au bout du tunnel, si jamais vous n'êtes pas sélectionné pour cette prévente, sachez que selon les informations du Parisien, il y aura 6 nouvelles dates et les malheureux de la prévente seraient même mis sur liste d'attente pour ces nouvelles dates. Il reste donc de l'espoir.
Il reste de l'espoir à Élise Dangence.
C'est ça, moi, je l'avoue.
RMC, Apolline Matin, le débat.
7h50 sur RMC et RMC Story. Le débat RMC. Des débats houleux ces derniers jours à la commission d'enquête sur l'audiovisuel public. L'animateur Nagui qui accuse le rapporteur d'être responsable des menaces de mort que lui et sa famille subissent. Xavier Niel, le patron de Free, qui s'emporte contre ce cirque, je le cite, assurant qu'il n'est pas un clown. Cécile Duflot, ancienne ministre et voix de gauche d'RMC. Bonjour Cécile.
Bonjour.
Charles Consigny, avocat, voix de droite. Je vais commencer avec vous Charles. Cette commission, elle va trop loin?
Moi, je ne trouve pas du tout qu'elle aille trop loin. Je pense qu'elle doit aller d'ailleurs encore plus loin. Je propose la nomination de Charles Alloncle comme président de France Télévisions. Moi, je pense que ce serait la seule bonne décision à prendre à l'issue de cette commission d'enquête qui montre à quel point il y avait à regarder dans l'usage qui est fait des deniers publics à France Télévisions. Moi, je dois vous dire que je suis vraiment sidéré de voir à quel point les uns et les autres répugnent à rendre des comptes, à s'expliquer de l'usage qu'ils font des deniers publics. Que ce soit Xavier Niel, qui est quelqu'un que je respecte par ailleurs, qui est un homme d'affaires merveilleux dont on a besoin en France, qui a été extrêmement irrespectueux hier et d'une violence inouïe avec ces deux jeunes députés, qui leur a vraiment montré qui avait le pouvoir entre lui et eux, ce qui n'est pas normal dans une démocratie. Que ce soit ceux qui refusent de donner leur salaire, Nagui qui explique que c'est parce qu'il est égyptien qu'on s'en prendrait à lui. Je trouve que c'est du délire et on remarque que finalement, cette commission, elle était très utile. Donc moi, je pense qu'il faut qu'elle aille encore plus loin. Je pense que tout doit être rendu public. Et je pense qu'il faut généraliser ce type de commission d'enquête à toutes les dépenses publiques.
On va venir sur les commissions en général. Mais Xavier Niel, vous l'évoquiez, qui dit qu'il regrette ce temps perdu, les dizaines de millions d'euros dépensés. C'est pas rien de répondre à la représentation nationale. Est-ce que c'est du temps perdu, Cécile Duflot?
En fait, il s'est passé une espèce de choc hier, vous m'avez dit le thème de ce débat et j'ai reçu l'annonce de la mort de Louis Besson. Et je me suis dit, waouh, Louis Besson, c'est quand même une autre manière de faire de la politique. Et ça vaut pour la droite et pour la gauche, une autre époque. Parce que là, en fait, c'est des parlementaires. Et en fait, le débat, c'est pas de savoir sur quoi ils travaillent, c'est la manière, en fait. C'est cette façon de parler, cette façon de tweeter avant même d'avoir posé des questions, de se mettre en scène en permanence, d'inviter. Et ça vaut d'ailleurs pas que pour cette commission, c'était la même chose avec TikTok. On utilise un outil puissant de la représentation parlementaire, la commission d'enquête, simplement pour obliger des gens plus célèbres que soi à venir et se mettre en scène. Donc en fait, ça fait du mal à la politique. Et même, Charles, si l'objectif, c'est de savoir vraiment où va l'argent public, quelles sont les dépenses, on n'y comprend plus rien. C'est devenu juste un sketch généralisé et ça fait du mal à la politique. Donc oui, ce choc m'a montré à quel point, à une époque, les parlementaires, Louis Besson et d'autres, hein, ça n'est pas du tout une question d'étiquette.
Je le rappelle, Louis Besson, ancien ministre, votre prédécesseur au logement, je crois.
Il y a longtemps, il a été 10 ans député, il a été maire de Chambéry. Et surtout, c'était quelqu'un d'extrêmement calme, qui pouvait débattre, y compris avec des gens de droite, qui pouvait avoir des accords avec des gens de droite. Alors, enfin, une époque où la politique avait quand même une certaine idée d'elle-même. Et moi, c'est l'abaissement du travail parlementaire que cette commission et d'autres commissions parlementaires montrent.
Vous avez, Charles Consigny, salué Charles Alloncle, qui est un des rapporteurs de cette commission, qui était accusé de relayer des fake news hier, de mentir dans cette commission, sachant qu'eux ne sont pas sous serment. Il y a quand même peut-être un petit côté purge, un petit côté on se tape des personnalités.
Non mais Charles Alloncle, il fait un travail salutaire, d'ailleurs il est bien seul à le faire et je vois qu'il y a tout un système qui se met en branle pour l'abattre, les uns et les autres, il y a ceux qui sont puissants, ceux qui cirent les pompes des puissants, c'est un truc habituel et déplorable. Moi ce que je remarque c'est que tous ces jet-setters du service public, il n'y en a pas un qui a accepté de donner le montant de sa rémunération. Je veux dire, on sait combien gagne un gendarme, on sait combien gagne un médecin urgent. Je vois pas pourquoi on saurait pas combien gagne un présentateur sur France Télévisions. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est nous qui payons. Il y a un moment, il faut arrêter le délire. C'est encore pire d'ailleurs pour ceux qui s'abritent derrière le fait qu'ils ne seraient pas salariés directement du groupe public, mais salariés d'une boîte de production qui facture ses prestations au groupe public.
Oui, c'était le cas,
mais
si on parlait de
Mais c'est une Nagui, honte. Nagui, moi, etc. Quand j'ai travaillé à France Télévisions, à France 2, chez On n'est pas couché, présenté par Ruquier, j'ai donné le montant de mon salaire au premier journaliste qui me l'a demandé. Je veux dire, je ne serais pas vu une seconde rétorquer que je n'étais pas salarié de France Télé, mais d'une boîte de prod. Alors, donc attendez, ça suffit. Et enfin, ces gens qui en plus se planquent derrière la notion de service public en faisant comme s'ils accomplissaient une mission sainte d'intérêt général et que donc ils seraient inattaquables, il y a un moment, ça va. C'est pas des infirmières de nuit dans des EHPAD publics. Ce sont des jet-setters de la gauche caviar qui n'ont pas l'habitude de rendre des comptes et ça leur fait mal. C'est normal.
Le le travail, et pour le coup, on parle d'argent public, des impôts des Français. C'est pas absurde en fait, d'avoir des députés qui posent des questions.
Pas du tout. Je pense que c'est même très important. Le Parlement, il vote les lois et il contrôle l'action publique et il peut même faire le bilan et l'évaluation des politiques publiques. Il est parfaitement dans son rôle. Mais justement, après, Charles, il fait ce qu'il fait très bien. C'est-à-dire, il fait son sketch à la télé.
Non,
et
c'est
en
pas
fait,
un sketch.
En vrai, Charles
Arrête avec ça, Cécile. C'est ni un sketch pour moi, ni un sketch pour Alloncle, ni un sketch pour moi. Moi, je dis ce que je pense. Le sketch, c'est Xavier Niel hier. Ça, c'était un sketch.
Donc,
une fausse colère, une violence insupportable. Ça, c'était un sketch. Et le sketch, c'est toute cette gauche caviar qui s'entortille parce qu'elle a les doigts dans le pot de confiture.
Donc, je redis, si c'est vrai, c'est-à-dire qu'il y a un vrai sujet sur la manière dont l'argent public est dépensé, on peut rester très calme quand on est parlementaire, aller au fond des choses. C'est pas du tout ce qui est fait. Et Charles Alloncle, on sent qu'il est frustré de pas être célèbre. Et d'ailleurs, je l'accable pas. C'est le cas de beaucoup de députés. C'est ça le problème, Mathieu. C'est que le problème, c'est que les parlementaires, là, avec un parlement un peu impuissant, un président qui veut tout décider tout seul, ils sont frustrés. Donc, comment ils peuvent exister? En faisant des petits coups, en faisant des petites interventions, en expliquant, en faisant des petites phrases, des TikTok. Et en fait, on a poussé ce système jusqu'au bout. Mais du coup, on affaiblit la capacité même, justement, du travail d'enquête. Typiquement, quand on s'attaque à un certain nombre de personnes, quand on invite des personnalités célèbres, et je vais vous dire une chose, j'ai regardé...
Ah oui, les célébrités, faut pas y toucher.
Non, pas du tout. Mais la commission parlementaire, quand il y a les directeurs de l'information de France Télévisions, c'est très important pour le coup de savoir comment le service public traite l'information. Il y a une poignée de députés dans la salle. Patrick Sébastien arrive, ils sont 40.
Oui, mais le rapporteur, il est là quand même quand il y a les directeurs de l'info.
Mais c'est ça le but.
Ça me fait penser aux hommes politiques de droite qui, quand ils sont mis en cause par la justice, mettent en cause les juges. C'est exactement le même système de
défense. Je défends l'Assemblée.
Vous l'avez peut-être suivi d'ailleurs. Dites-nous sur le WhatsApp RMC ou au 3216 ce que vous pensez de ces débats qu'on voit à l'Assemblée nationale. On mettra pas Charles et Cécile d'accord ce matin. Merci à tous les deux. Lundi à la même heure, on retrouve Louis Sarkozy, l'autre voix de droite d'RMC. À suivre le journal de 8h. Emmanuel Le Chip, week-end à haut risque, nous dit Emmanuel Le Chip.
Oui, parce que de plus en plus de stations vont connaître des pénuries. Et puis le plus inquiétant, c'est que les prix s'envolent, notamment sur les marchés européens du carburant. Et le diesel à 3 euros le litre, ce sera bientôt plus une fiction.
Il est 7h57. Très bon réveil quand même.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.